Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, la commission d'enquête indépendante des Nations Unies dénonce une crise des droits humains d'une gravité exceptionnelle dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Dans sa première mise à jour officielle au Conseil des droits de l'homme à Genève, cette commission fait état de la détérioration de l'environnement sécuritaire, marquée notamment par des déplacements massifs des civils. Au Kasaï oriental, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 1 ont effectivement démarré la semaine dernière sur l'axe Katende Mbujimayi. La société Safrimex a déjà posé une première couche d'enrobé sur les deux premiers kilomètres de ce tronçon qui en compte environ 30. Et comme invité, Gisèle Bombélé, présidente de la fondation qui porte exactement le même nom. Elle parle de la foire agricole organisée depuis samedi dernier à Kisangani par cette fondation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des civils dans l'Est de la République démocratique du Congo ont décrit une crise des droits humains d'une gravité exceptionnelle, marquée par des allégations de violences sexuelles et d'homicides illégaux. Cet avertissement est contenu dans un communiqué publié ce lundi par la Commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Présentant sa première mise à jour officielle au Conseil des droits de l'homme à Genève, la Commission a indiqué que la détérioration de l'environnement sécuritaire, marquée par des déplacements massifs des civils, l'affaiblissement des institutions publiques et un conflit régional d'une grande complexité, laisse les habitants des zones touchées vulnérables et sans protection. Les points avec vous, Alain Hirung.
Les informations portées à notre attention font état d'une situation d'une gravité exceptionnelle, a déclaré Arnold Akogenou, président de la commission. Nous avons reçu des témoignages profondément préoccupants concernant les enfants, les violences sexuelles liées au conflit, y compris l'esclavage sexuel, le recrutement forcé, les homicides illégaux, les arrestations arbitraires et les attaques contre des écoles et des établissements de santé. Créé par le Conseil des droits de l'homme pour enquêter sur les violations et atteintes présumées au droit international des droits humains et les violences du droit international humanitaire au Nord Kivu et au Sud Kivu, la commission a tenu plus de 50 consultations en ligne et plus de 30 réunions en personne avec divers interlocuteurs. Bien que la situation sécuritaire et sanitaire instable ait empêché l'accès à la ville de Goma, dans l'est du pays, la commission entend se rendre dans les zones touchées du Nord Kivu et du Sud Kivu, y compris à Goma, dès que les conditions de sécurité et les conditions opérationnelles le permettront. Les enquêtes étant toujours à un stade préliminaire, la commission n'est pas encore en mesure de se prononcer sur la nature ou l'ampleur des violations ni de tirer des conclusions définitives.
Et puis le déploiement depuis une semaine de la force d'intervention rapide de la MONUSCO à Mambasa suscite de l'espoir au sein de la population face à l'activisme persistant des rebelles des ADF. Cette appréciation a été exprimée par différentes couches de la population lors des échanges avec une délégation mixte de la MONUSCO en mission à Mambasa Centre la semaine dernière. Les leaders communautaires ont également réaffirmé leur engagement à collaborer avec les services de sécurité, notamment à travers la dénonciation de tout mouvement suspect. Le point avec Isaac Remoyopi.
Le déploiement de la force d'intervention rapide de la MONUSCO est accueilli favorablement dans les territoires de Mambasa, en proie depuis près de 4 mois aux attaques répétées des rebelles des ADF. Selon des sources locales, des dizaines de villages ont déjà été attaqués, causant la mort de plus de 150 personnes, d'importants dégâts matériels, ainsi que le déplacement des milliers d'habitants. Pour la société civile Force Vive de Mambasa, la présence des casques bleus aux côtés des FARDC constitue un appui important dans la lutte contre les groupes armés pour améliorer la sécurité dans la région. Son coordonnateur, Mungeni Yuma.
Nous saluons l'arrivée de la MONUSCO à Mambasa, et surtout la force qui vient répondre à notre besoin. Mambasa est sous menace de l'ennemi ADF. Avec l'arrivée de la force de la MONUSCO, Mambasa sera sauvé.
De leur côté, les représentants des différentes couches de la population se disent prêts à renforcer leur collaboration avec les services de sécurité afin de faciliter les opérations militaires contre les ADF. Ils demandent toutefois aux forces engagées sur le terrain de réagir rapidement et efficacement aux alertes émises par la population. Marie-Noël Anotane de la Nouvelle Société Civile du Congo.
Nous sommes en français, collaborer pour que les choses marchent. Nous l'avons toujours fait. Des fois, malheureusement, les réactions sont timides ou les réactions viennent en retard.
De Mambasa, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, au Nord Kivu, la coalition FRDC Wazalendo s'approche à nouveau des agglomérations d'Engungu et de la cité minière de Rubaya dans les territoires de Masisi. Cette progression intervient à l'issue des violents affrontements qui l'ont opposé tout le week-end aux rebelles de l'AFC M23. Jusqu'à ce lundi matin, selon plusieurs sources locales, des tirs d'armes lourdes et légères étaient encore entendus dans la zone de Kabingu, près d'Engungu, en chevrie des Bahoundé. Des détails avec Magloire Landou.
Les sources locales décrivent une situation toujours tendue et volatile autour d'Engungu et Rubaya, chefferie des Bahoundé ainsi que des Kasséniluké et leurs environs dans les secteurs Osobanyungu. Des tirs d'artillerie ont été signalés dans la matinée de ce lundi dans les villages des Kabingu sur l'axe Ngungu. D'après ces sources, les combats ont débuté tôt vendredi matin lorsque le groupe Wazalendo allié au FARDC ont lancé des attaques simultanées dans plusieurs entités du territoire de Masisi ainsi que dans certaines localités du territoire voisin des Kalehi au sud Kivu. Après deux jours de combat, les Wazalendo auraient repris le contrôle de quelques positions stratégiques, notamment Kasaki, près d'Engungu et des Rubaya, ainsi que le colline des Runigi et des Kanyarubere dans le groupement Kibabi. Sur les plans humanitaires, la situation perturbe fortement la quiétude des habitants. D'importants mouvements de population ont été signalés le week-end dans les villages concernés. Par ailleurs, d'autres combats ont été signalés vendredi dans les localités des Minjenje, territoire des Walika, ainsi qu'à Biboué dans le groupement Bachalimokoto dans les Masisi. Cette nouvelle escalade intervient alors que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et les Rwanda, dit accord de Washington, a totalisé samedi 27 juin une année depuis sa signature.
Et dans la province du Maniema, l'insécurité persistante dans les territoires de Lobutu inquiète la communauté Komo vivant à Kindu. Réunie ce week-end en assemblée extraordinaire, cette communauté réclame l'organisation d'une table ronde à Lobutu, réunissant les différentes parties prenantes afin de débattre de cette question et de permettre à la population de vivre dans la stabilité. Un extrait de leur déclaration, lu par Jean-Paul Batika, président de cette communauté à Kindu, il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous, communauté Komo de Lobutu, réunis à Kindu ce jour, conscients de la crise sécuritaire déplorable que traverse notre territoire durant plus d'une année et exceptionnellement ce mois de juin, soucieux d'une paix durable, qu'il nous soit permis de nous adresser donc comme un peuple uni à sa profonde sollicitude au fin de son explication personnelle pour le retour d'une paix durable dans le territoire de Lobutu. Nous recommanderions également ce qui suit. 1. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de ne ménager aucun effort pour organiser une table ronde socio-sécuritaire mixte impliquant toutes les parties prenantes pour la restauration de la paix dans les territoires de Lobutu. Aux porteurs d'armes, n'acceptez donc aucune instrumentalisation, aucune dérive pour ne pas tomber dans la trahison. Aux filles et fils de Lobutu, restons alignés sur nos valeurs, notre culture, notre histoire comme un peuple uni, solidaire et loyal. Enterrons la hache des guerre, préservons la paix au-delà de nos obédiences politiques, religieuses et sociales. La paix n'a pas de prix, dit-on.
Je le disais au sommaire, au Kasaï oriental, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 1 ont effectivement démarré la semaine dernière sur l'axe Katende Mbujimayi, long d'environ 30 km. L'entreprise Safrimex, en charge du chantier, a déjà posé une première couche d'enrobés sur les deux premiers kilomètres. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon l'office des routes, c'est la première fois que ce tronçon reçoit un revêtement asphaltique depuis son existence. La même source précise que 5 km seront aménagés en 4 bandes, 2 pour aller et 2 pour le retour, depuis le rond-point Pintrombou au centre-ville de Mbujimayi, avant de se poursuivre en 2 bandes jusqu'à la sortie de la ville. Ce chantier s'inscrit dans le programme national de modernisation des grands axes routiers visant à renforcer la réunification du pays et à améliorer la connectivité économique, notamment sur le corridor de Lobito via Kalambambouji où la circulation reste un défi majeur. D'après la CGT, les travaux sont exécutés quotidiennement avec un objectif de livraison fixé au 31 décembre prochain. L'ambition est d'ouvrir une route plus moderne, plus sûre et plus confortable aux usagers. Dans le village de Katende et d'autres des environs du secteur de Kakangai, les habitants se disent satisfaits de l'avancement du chantier. Ils estiment que que les travaux représentent une amélioration majeure pour une région longtemps pénalisée par la dégradation de la nationale numéro 1. Beaucoup espèrent que cette modernisation facilitera durablement la mobilité et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités économiques. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis le groupement Ngalakaji, situé en périphérie de Kananga, à une quinzaine de kilomètres de la ville, ne dispose d'aucune structure sanitaire. La population y rencontre de grandes difficultés pour accéder aux soins. Les femmes enceintes sont contraintes de parcourir de longues distances pour accoucher. Une situation qui expose mère et nouveau-né à de nombreux risques et contribue à la mortalité infantile. Pour répondre à cette problématique, un bienfaiteur vient de lancer un projet de construction d'un centre de santé moderne dans la localité. Des détails avec André Katendenga Lamouloumé.
À Ngalakaji, l'offre de soins est quasiment inexistante. Ni centre de santé, ni maternité pour des milliers d'habitants. L'établissement le plus proche se trouve à Mwambambouyi, à plus de 5 km. Pour se faire soigner, les habitants doivent marcher pendant de longues heures. Faute d'alternatives, certains recourent aux plantes médicinales, d'autres à l'automédication. Marcel Kadima, représentant du chef du groupement, décrit une situation préoccupante. Les femmes enceintes sont le plus exposées. Accoucher exige souvent de longues heures de marche, ce qui pousse certaines à donner naissance à domicile. D'autres n'atteignent même pas le centre de santé. Il arrive qu'elles accouchent en chemin au risque de perdre leur bébé, à l'instar d'Elysée Mouchia qui en garde un souvenir douloureux.
Je me rendais à Mwambambouyi pour accoucher. Arrivé en Panga, en pleine brousse, j'ai mis au monde. Faute de sage-femme, mon bébé est mort.
Face à cette réalité, une fondation caritative a lancé les travaux de construction d'un centre de santé moderne dans la localité. Les travaux sont prévus pour durer 4 mois. Cette infrastructure permettra notamment aux habitants de se rapprocher des services de santé et de bénéficier des soins de qualité, a indiqué les représentants de la fondation. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Des communautés rurales et périurbaines se mobilisent pour atténuer les effets du changement climatique dans leurs zones respectives, tandis que des radios communautaires produisent des programmes capables d'influencer les politiques publiques. Il s'agit là de quelques-uns des acquis du projet Pamoja Entendez Ensemble, dont les résultats ont été présentés samedi à Kinshasa. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Acted, France Média Monde, RFI, Secteur Média et Cogeski, ce programme de mobilisation des organisations locales et de la jeunesse active en RDC a jeté les bases d'une collaboration durable entre populations, acteurs locaux et dirigeants. Ronéline Tibonera pour les détails.
Durant 4 ans, le volet média du projet a permis à 12 radios communautaires d'être renforcées et outillées pour intégrer le numérique dans leurs outils de diffusion. L'objectif, porter plus loin le voix des communautés locales, souligne Fladel Ngandé, responsable des secteurs médias.
Nous voulions à ce que les radios cessent d'être des diffuseurs sur FM, mais plutôt profitent aussi des opportunités offertes par le numérique. Et donc, nous avons renforcé les capacités de ces radios.
Lors de la phase d'exécution, plus de 700 vidéos ont été produites abordant des thématiques variées. Gestion de l'environnement, justice sociale, participation citoyenne, paix et cohésion sociale. Benita Ugendo de la radio Flambeau de l'Orient, responsable numérique de cette chaîne, se félicite de l'impact concret du projet sur les communautés.
Les émissions qu'on fait, ça donne vraiment des impacts. On ne peut pas rester comme ça, on va continuer seulement à les faire pour réveiller nos autorités, pour réveiller la population de la ville de Kisangani.
Pour Max Ebal de RFI Planète Radio, Pamoja constitue un exemple concret de la responsabilisation citoyenne à la base.
L'exemple de Pamoja devrait être un exemple à suivre parce que ça permet aussi aux jeunes de pouvoir utiliser les outils qu'ils aiment. Et vous savez, par définition, c'est difficile de pousser les gens à faire des choses qu'ils n'aiment pas.
Le projet Pamoja a été exécuté dans 6 provinces du pays, dont Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Ituri, Tchopo et Maniema.
Actualité internationale.
Au Mali, 8 civils ont été tués par une frappe de drone le 26 juin près de Tidermen, dans la région de Menaka, non loin de la frontière avec le Niger. Selon de nombreuses sources locales, les personnes tuées, parmi lesquelles figurent 3 adolescents, sont des civils qui se rendaient à une foire hebdomadaire. La totalité des passagers du véhicule a été tuée sur le coup. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération.
L'invité.
Il s'agit de Gisèle Bombélé, présidente de la fondation qui porte le même nom. Elle parle de la foire agricole organisée depuis samedi dernier à Kisangani par cette fondation. Il s'agit de faire découvrir le potentiel agro-pastoral de la région et créer des réseaux avec les producteurs locaux. Gisèle Bombélé s'est confiée à Jacques Moukonkolé.
Madame Gisèle Bombélé, bonjour.
Bonjour, merci.
Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette foire? C'est une foire agricole.
Comme on le dit, si tu ne t'occupes pas de l'agriculture, l'agriculture va s'occuper de toi. Du fait que, riche ou pauvre, on a droit à se nourrir, à manger. Et aujourd'hui, avec le contexte de changement climatique, nous devons déjà avoir une sonnette d'alarme pour dire que nous avons un défi, nous avons une problématique devant nous, c'est les changements climatiques. Certes, nous avons de terres arables, mais aujourd'hui, nous avons un problème de canicule étouffante, nous avons un problème de pluies abondantes et il y a un changement de climat. Voilà la raison pour laquelle nous étions d'abord réunis en conférence pour essayer de changer, de parler sur l'agriculture et sur le changement climatique. Et aujourd'hui, nous avons lié l'utile à l'agréable, raison pour laquelle nous sommes dans une foire agricole.
Quel est l'objectif que vous poursuivez?
L'objectif que nous poursuivons, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait régression au niveau de l'agriculture. Comme vous le savez très bien, quand le changement climatique nous frappe à plein fouet, donc on a peut-être une réduction de la production agricole. C'est pour ça, au travers ces activités, nous voulons à ce que la femme de la Tchopo, parce que c'est elle qui nourrit la province à 80%, la femme de la Tchopo, toutes tendances confondues, que ce soit celle de territoire et de la ville de Kisangani. Nous nous sommes réunis. L'objectif est que nous voulons booster la production agricole.
Madame Gisèle, la première édition d'organiser cette foire agricole, quels sont les défis?
C'est la deuxième édition de Singa Mwambe, de Forum de Femmes de la Tchopo, mais c'est la première édition de la foire agricole parce que souvent, nous avons toujours organisé de conférences d'échange avec les femmes, mais cette fois-ci, on a voulu coupler avec la foire agricole. Nous avons eu beaucoup de défis, surtout sur le plan financier pour l'organisation et aussi, nous avons des défis parce que aujourd'hui, l'agriculture, certes, elle fait parler, mais elle n'est pas vraiment considérée. Donc, il faut que nous puissions sensibiliser toutes les couches, que ce soit les politiques, la société civile, le droit de l'homme. Tous, nous devons nous unir pour parler de l'agriculture. Aujourd'hui, à la Tchopo, nous avons connu un problème d'augmentation de prix du riz. Et tout le monde en a parlé, que ça soit dans la maison du politicien, que ça soit dans la maison de celui de la société civile ou de la population, de la communauté. Tous avons subi les effets de la hausse du prix de riz. Donc tous aussi, nous devons vraiment, arme à la main, parler de l'agriculture et aussi passer même à l'acte. Voilà.
Pour les producteurs locaux, madame, l'état des routes de cette agricole reste un calvaire. Comment votre ONG intègre-t-elle cette problématique?
Bien sûr, c'est un défi aussi majeur pour l'agriculteur quand les routes de dessertes agricoles ne sont pas réhabilitées, lorsque ça cause vraiment un souci pour l'agriculteur. Oui, il peut produire, mais comment relier le centre de production au centre de consommation? C'est ça aussi la vraie problématique. C'est que nous suggérons aux autorités et que le voie navigable de desserte agricole aussi doit être prise en compte. Parce que avec le voie navigable de desserte agricole, lorsqu'elles sont vraiment réhabilitées, elles sont moins onéreuses et ça peut faciliter que le produit quitte le centre de production au centre de consommation.
Qu'attendez-vous à la fin de cette foire pour juger de sa réussite?
La réussite, d'abord, c'est que nous avons eu des recommandations. Les recommandations provenant de participants. Et nous voulons, pour nous, pour pérenniser cette activité, c'est le suivi, c'est la formation, c'est l'encadrement de toutes ces femmes, parce qu'on ne se limite pas seulement ici à Kisangani. Il faut aussi que ces femmes soient encadrées au niveau de nos territoires afin que cette activité soit vraiment pérennisée. Voilà.
Un message à la population boyomaise?
À la population boyomaise, nous avons déjà lancé chaque parcelle avec un potager. Chaque tchopolaise et tchopolais, nous voulons à ce que tous nous mettons la main dans la pâte, que tous nous puissions retourner à la terre. C'est lorsque tout Tchopolais comprendra l'importance, la nécessité de l'agriculture, qu'aujourd'hui nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire et voilà, nous allons exporter même les produits pérennes.
Madame Gisèle, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était notre invitée Gisèle Bombélé, présidente de la fondation du même nom qui s'entretenait à Kisangani avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Alain Hirung, Jude Mister Bilanda et Élisée Tchikota. Jean-Claude Siala et Pierre Diassinois ont assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.